Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio tous les jours de la semaine de 6h à 6h30, ou quand vous voulez, si vous passez par l'abonnement au podcast de l'émission. Tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma, et aujourd'hui, je reçois pour la première fois, et je suis particulièrement heureux de le recevoir, Martin Provost. Bonjour.
Bonjour.
Réalisateur populaire et de qualité, comme quoi ça existe, il a réalisé entre autres Séraphine, ce film que j'adore, Sage-femme, et son dernier film sort aujourd'hui avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, pour ne parler que des femmes, titre du film « La bonne épouse ». À la réalisation, Vincent Abouchard, à la prise de son, Florent Bujon. Le réveil culturel de ce matin a été préparé avec la complicité de Corinne Amar et de Cyril Marchand.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal. D'une manière appliquée, sans fléchir, eh ben oui, il y a bien eu une époque où l'on enseignait aux jeunes filles à devenir des épouses parfaites dans des écoles ménagères. Martin Provost, vous l'avez pas connu ça?
Un peu. Bon. Un petit peu. Je me souviens du guide de la bonne ménagère qu'il y avait dans le tiroir de la cuisine chez mes parents. Je me souviens que quand on était petit.
Non, mais des livres, ça va. Mais,
écoles. Si, parce que ma mère, quand j'étais petit, quand on partait en vacances, elle allait dans une école ménagère chercher une petite jeune fille pour s'occuper de nous pendant l'été. Donc ça, je m'en souvenais.
Et c'est à partir de ce souvenir que vous avez eu envie de parler de cette époque-là?
Non, ça m'est revenu après. Mais c'est une amie qui m'a raconté un jour sa vie, à 3 ans, en me disant comment elle avait décidé de faire une école ménagère alors qu'elle aurait pu faire des études parce qu'elle voulait pas être séparée de ses copines qui étaient toutes filles d'agriculteurs.
Votre film parle de ça, La bonne épouse, sauf que là, on est dans une période charnière.
En 1967-68.
Oui, ça va bouger. Quoique, on en parlera en fin d'émission, tout ce qui se passe dans le milieu du cinéma, après les Césars.
Vous êtes sûr?
Ben oui. Vous êtes arrangé pour...
Je m'y attendais.
Non, mais oui, puisque c'est aussi un sujet d'actualité.
Mais en tout cas, on est dans l'époque.
Mesdemoiselles, un peu de silence, s'il vous plaît.
Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères.
Rotation de cheveux, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur.
Arrête!
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline.
Bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères.
Je veux te revoir.
Non !
Afin de ne pas céder à toutes ces tentations. En deux mots, mains occupées, mauvaises pensées chassées.
Zay, 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 zay. Zay, 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 zay.
La bonne épouse de mon invité ce matin, Martin Provost, sort aujourd'hui avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, et puis un sujet surtout. C'est un film à sujet, comme très souvent dans vos films, Martin Provost. Alors, une fois qu'on a vu ce film, parce que c'est une comédie, ça reste quand même une comédie, hein.
Oui, mais enfin une comédie dramatique.
Une comédie dramatique, avec des têtes d'affiche, mais une fois qu'on a vu ça, c'est-à-dire une fois qu'on a été immergé dans cette école pour demoiselles, pour les former à devenir des fées du logis, comme on disait à l'époque, j'ai voulu savoir à quoi ça ressemblait dans le réel. Est-ce que ça vraiment existait?
C'était comme ça.
C'était comme ça.
Ah, mais c'était comme ça. Il y a des, quand j'ai découvert cette histoire, je suis allé sur le site de l'INA, oui. J'ai trouvé des petits films, je sais pas si vous y êtes allé, mais allez voir, c'est absolument extraordinaire. Et j'ai vu ce que c'était, et c'était très drôle et terrifiant. Et donc, tout ce que je raconte est vrai, il y a rien de faux, rien.
Absolument. On a exactement fait comme vous, Martin Provost. On a retrouvé quelques archives assez troublantes, même si, avec le recul, c'est vrai, on peut en rire.
Rue de Bellême, le cours normal d'enseignement ménager de Paris a choisi la puériculture comme thème de son exposition 1957. Voici les travaux de ces jeunes filles, futures professeurs d'enseignement ménager. Pendant 2 ans, elles ont réuni et fort bien présenté, vous pouvez le voir, toute la documentation sur la première enfance. Recherches minutieuses, variées, elles les aideront à devenir de bons professeurs de puériculture. Des élèves des cours d'enseignement ménager, en voici. Elles sont 75 000 de 11 à 17 ans, dans les écoles communales, à Paris et dans la Seine. La croissance, l'alimentation, l'hygiène de bébé, pour elles, n'auront plus de secrets. Et quand les jeunes filles apprennent la puériculture, les enfants se portent mieux, la mortalité diminue chez les tout-petits. Dans les cours d'enseignement ménager, on fait aussi de la cuisine, du repassage, du raccommodage, de la couture et de l'économie domestique, bien sûr.
Bonne épouse, c'est un métier comme un autre. On peut dire ça aussi, on peut voir les choses aussi comme ça, Martin Provost.
Un métier, oui. Enfin, en tout cas, là, il faut savoir que toutes ces tâches domestiques n'ont jamais été reconnues par les hommes d'une certaine façon, parce qu'elles ne rapportent rien. Donc, c'est quand même toute une partie que les femmes doivent endosser sans moufter, surtout à cette époque-là. Donc, tout ce qui va en découler après et qui va arriver jusqu'à nos jours est quand même assez légitime.
Alors, pour résumer votre film, La Bonne Épouse, vous avez eu l'idée géniale de situer l'action du film entre 67 et 68.
C'est-à-dire la rentrée 67 et ouais. Ça explose en 68.
Et ça explose en 68, c'est-à-dire l'année où tout ça va être remis en cause.
Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'en plus le EMLF a été créé en 70 et que toutes les écoles ménagères se sont transformées, ont fermé ou se sont transformées en lycée agricole.
Et là, Juliette Binoche, elle joue le rôle d'une femme qui va prendre quand même le contrôle de sa destinée, même si c'était pas voulu. C'est ça qui est...
Oui, je pense pas que ce soit le contrôle, soit le mot juste. Voilà. Plutôt qu'elle va lâcher. Et elle va plutôt... Oui, elle va retrouver l'homme qu'elle aimait, qui avait été déporté pendant la guerre, et qu'elle pensait mort, puisque son mari va mourir, et elle va être obligée de se laisser emporter par ce qu'elle est, profondément, par sa vraie nature, et donc lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, c'est-à-dire que tout ce qu'elle apprend à ses élèves, elle va être obligée d'y renoncer.
Parlons de cette école que vous avez située en Alsace, d'ailleurs pourquoi ?
Parce que moi je suis breton d'origine, bah oui. et je voulais pas qu'il y ait la mer. Ça me paraissait évident, il fallait pas qu'il y ait d'ouverture sur l'horizon. Et l'Alsace, en plus, était après-guerre quand même un territoire assez encore isolé. On interdisait aux élèves à parler l'alsacien. Il y avait l'influence de la guerre qui était très 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 forte. Il y a eu beaucoup de juifs déportés qui étaient de l'Alsace. Et donc on a décidé avec Séverine Verba, avec qui j'écris le scénario, d'être là en fait. Et puis il y a les montagnes, et puis il y a la nature très belle, très forte. Ça nous paraissait, enfin moi c'était important pour moi qu'il y ait toute cette nature.
Qu'est-ce qui était important aussi dans votre esprit quand vous avez écrit ce film, Martin Provost, c'est de rappeler une période, c'est de mesurer tout le progrès au niveau sociétal, ou bien au contraire, c'est parce que vous avez l'impression que l'époque d'aujourd'hui est une époque qui est marquée encore par des injustices, qui est secouée par des mouvements comme le mouvement MeToo, que vous avez décidé d'investir une fois de plus, parce que c'est pas la première fois que vous êtes le féministe du cinéma français,
c'était tout à fait inconscient de ma part au début. Quand on a commencé à écrire le scénario, l'affaire MeToo n'avait pas existé, enfin l'affaire Weinstein n'avait pas du tout explosé, on était en pleine écriture, donc c'était troublant de voir à quel point ce film-là devait exister. Et c'était un peu comme Séraphine d'ailleurs, c'est des choses qui me tombaient dessus et que avec lesquelles j'ai appris à comprendre ce qui se passe. Et donc c'est vrai qu'avec avec La Bonne Épouse, ça me paraissait important de rappeler d'où on vient, ce que c'était il y a 50 ans. Quand même, 50 ans, c'est beaucoup de temps. C'est à la moitié d'un siècle. Et en même temps, c'est pas terminé. Ça a commencé là, en 68-70, et on en voit encore la progression, et sans savoir où on va exactement.
L'écriture du scénario est une écriture très documentée, mais est-ce qu'on ira jusqu'à dire, Martin Provost, que par exemple les 7 piliers qu'enseigne cette école aux demoiselles pour devenir de bonnes épouses, des perles, les perles des ménagères, est-ce que les 7 piliers, c'est de la fiction, bien sûr?
Non. Pas vraiment.
Pilier j'ai... numéro 1.
Après ça, c'est écrit, oui.
Vous vous souvenez un peu de cette pilier?
J'espère.
Pilier numéro 1, la bonne épouse est avant tout la compagne de son mari, ce qui suppose oubli de soi, compréhension et bonne humeur.
Tout ça existe.
Pilier numéro 2, une véritable maîtresse de maison se doit d'accomplir ses tâches quotidiennes, cuisine, repassage, raccommodage, ménage, dans une abnégation totale et sans jamais se plaindre.
Je ne peux pas vous dire exactement les origines, mais tout ça, on l'a lu.
Oh là là. Pilier numéro 3, être femme au foyer, c'est savoir tenir ses comptes dans un souci d'économie constante, savoir évoluer sans caprice les besoins de chacun, sans jamais mettre en avant les siens. Vous êtes une trésorière, pas une dépensière. Pilier numéro 4, être une femme au foyer, c'est être la gardienne
de toute la maisonnée.
De l'hygiène corporelle et ménagère de toute la maisonnée. Pilier numéro 5, première levée, dernière couchée. Pilier numéro 6,
bah c'est vrai.
La bonne ménagère s'interdit toute consommation d'alcool, se devant de toujours montrer l'exemple, surtout à ses enfants. En revanche, elle saura fermer les yeux et se montrer conciliante si son époux se laissait aller à ce mauvais penchant, ce qui arrive souvent. Et puis enfin, le pilier numéro 7.
Le devoir conjugal.
Le devoir conjugal. Voilà, c'est incroyable, hein, parce que, en plus, quand c'est incarné par Juliette Binoche qui dit à ces demoiselles, le dernier devoir est à la bonne épouse ce que le travail est à l'homme. Parfois une joie, souvent une contrainte. Je vais parler du devoir conjugal. Avec le temps et en y mettant un peu de soi-même, on franchira cette épreuve aussi pénible qu'ingrate soit-elle. L'expérience vous apprendra qu'il en va de la bonne santé physique et morale de toute la famille.
Mais moi, je me souviens d'une amie à 30 ans, qui était une vieille dame à l'époque, qui m'avait dit, quand elle avait demandé à ses parents, à sa mère, de lui expliquer un peu, parce qu'elle allait se marier, ce qui allait se passer, parce qu'elle ne le savait pas. Mais c'était avant 68, hein. Sa mère lui avait répondu, en dessous de là, montrant les épaules, ça n'existe pas. On revient de loin.
Ouais. Comment ça s'est passé ce tournage avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky? Non mais c'était merveilleux bien sûr, parce que oui. vous leur offrez Martin Provost de non, très beaux rôles.
Les films ne sont pas comme ça. Il y a des films plus difficiles que d'autres. Celui-là a été particulièrement lumineux et joyeux, très difficile à faire pour moi.
Vous l'avez peut-être écrit avant Me Too, mais vous l'avez tourné alors qu'on était en plein Me Too.
En plein dedans.
Et donc,
vous savez, quand on fait un film, on travaille 18 heures par jour, c'est non-stop, les temps de tournage sont de plus en plus courts, et du coup, c'est le travail est colossal, donc on n'a pas vraiment le temps de réfléchir à tout ce qui se passe. Et après, une fois qu'on a tourné,
ou avant,
on commence à en parler.
Avant,
non, il y avait les répétitions, il y avait tout le côté musical, c'est un travail de titan ce film pour moi.
Ah bah, parlons du côté musical du film, La Bonne Épouse. Comme souvent avec vous, vous privilégiez la culture populaire, donc la variété populaire.
Oui, tout à fait. Il y avait Adamo, ça c'était très troublant, parce que quand j'ai envoyé le scénario à Yolande, parce que Yolande, le personnage de Yolande Gilbert, est une jeune fille qui n'a pas vieilli, elle écoute toujours Adamo, son amour de jeunesse, elle me dit, mais c'est incroyable Martin, Adamo c'est mon amour de jeunesse justement. Tu sais que je l'ai rencontré, qu'on est très amis, qu'il vient voir tous mes films, qu'à chaque fois on se retrouve, et c'est vraiment mon grand amour.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige.
Bon ben, on avait un peu hésité entre Joe Dassin et Adamo, ben finalement, voilà. Ça, pour rester dans l'ambiance de votre film qui sort aujourd'hui, je le rappelle, La Bonne Épouse, Martin Provost. S'il fallait parler un peu de votre cinéma, c'est un cinéma tout à la fois populaire, qui a eu beaucoup de succès. Vos films ont généralement beaucoup de succès.
Pas
de...
tous.
Mais
en même temps, oui, mais pas que.
Et en même temps, ce sont des films de qualité. On se souvient de Séraphine. Alors Séraphine, il a eu beaucoup de succès. Hein. Sage-femme aussi, avec... avec Deneuve et Catherine Fraud. Vous avez réalisé aussi un film sur Violette Leduc, et puis même un autre film, Où va la nuit, sur une femme battue. Les femmes, le statut des femmes, l'émancipation des femmes sont souvent au centre de vos films. Martin Provost, pourquoi ?
Alors j'ai beaucoup réfléchi à ça, vous pensez bien, parce que
surtout en ce moment,
il fallait même que je prépare un peu mes réponses, et parce que c'était très très inconscient chez moi, et même avant de faire Séraphine, j'avais déjà fait deux films avec Carmen Maura, et même j'ai beaucoup écrit pour France Culture, et toujours des histoires avec des femmes. Ma première pièce qui s'appelait Les Poupées, la première phrase c'était Dieu, Dieu, j'entends la voix de Dieu, pourquoi as-tu une voix de femme? Donc ça veut dire qu'il y a un truc en moi qui s'exprime. Mais je pense que j'ai une part féminine très très importante que j'ai appris à connaître et à découvrir et je dirais à travailler, qu'il a fallu que je travaille pour en être heureux et fier, et que c'est cette part-là qui s'exprime.
C'est votre part de féminité, comme chacun a sa part de féminité, ou c'est aussi un engagement, c'est votre envie d'être féministe et de défendre la cause des femmes?
Ça le devient, c'est-à-dire que ce qui était inconscient au début le devient. Évidemment, aujourd'hui, c'est très clair. Et je me souviens, d'ailleurs, pour Séraphine, ma première assistante à l'époque m'avait dit « Mais pourquoi toi, t'es jamais dans un mouvement politique, tu t'engages pas ?» Et je lui avais répondu « Bah moi, quand je fais Séraphine, j'ai l'impression justement d'œuvrer pour ça. Et sans être d'un parti, mais je fais quelque chose qui est important. Et je vois qu'aujourd'hui, j'avais raison. Et que tous mes films, petit à petit, avec Violette Leduc, et Où va la nuit, qui est incroyable, une femme battue, qui assassine son mari, et qui voit son fils arriver, et qui sait pas comment se situer face à ce fils qui lui en veut aussi parce qu'elle a tué son père. Tout ça, c'est des sujets. La Bonne Épouse, maintenant, qui est un film beaucoup plus joyeux et beaucoup plus libre d'une certaine façon sur le constat de ces 50 ans passés depuis 68. Oui, ça me force à voir que je suis en effet un metteur en scène féministe.
Séraphine, ça a déjà 12 ans. Hein.
Oui.
Grand succès populaire en salle.
Oui, tout à fait.
Vous avez frôlé ou atteint les 1 million de spectateurs, mais surtout, vous avez obtenu 7 César, meilleur film, meilleur scénario original, meilleure actrice pour Yolande Moreau. Bah oui. Vous êtes arrangé, Martin Provost, pour ne pas être présent à la cérémonie des Césars.
Je ne suis pas arrangé, j'ai pas été invité. On ne nous invite pas quand on n'a pas de film.
Et si on vous avait invité?
C'est très intéressant ce qui se passe. J'ai un petit point de vue là-dessus, évidemment. J'essaye de prendre de la hauteur, voilà. De ne pas me dire, il faut que je fasse partie d'un clan ou d'un autre clan, parce que c'est un peu ça qu'on vous demande aujourd'hui. On fait un peu tomber les têtes. C'est vrai que, moi, Polanski a été un metteur en scène tellement important dans ma vie. Je me souviens du Couteau dans l'eau, du Bal des Vampires, du Pianiste, qui était un film immense. Rosemary's Baby, c'est extraordinaire. Je n'ai pas envie de condamner Roman Polanski, en tout cas pas le metteur en scène. Non, j'ai pas envie de le juger. Après ça, l'homme, voilà, ce qu'il fait est tout à fait impardonnable. Si j'avais une fille de 13 ans, je pense que je serais absolument hostile à ce qu'est l'humain. Polanski. Maintenant, de l'autre côté, je me souviens quand j'ai vu le film de Céline Sciamma, j'ai été profondément bouleversé par son film. Et c'est vrai que cette prise de parole aussi, je la comprends. La domination masculine a œuvré depuis des décennies. Elle est en train de s'effriter. Elle est en train de se transformer. C'est très important. Les prises de parole sont fondamentales. Et on est en train de voir tout ça bouillonner, c'est ce qu'on appelle une révolution, on peut appeler ça une vraie révolution. Maintenant, je me dis, il faut prendre du recul, regarder ça de loin, avec de la hauteur, pour voir où on va. Un papillon, avant de sortir de sa chrysalide, il lui faut du temps, c'est difficile, c'est très douloureux, mais je pense qu'au bout, il y a un papillon, et je l'espère, et j'espère qu'on va arriver à une compréhension mutuelle entre hommes et femmes, un accord qui sera plus équilibré, plus heureux, avec chacun sa part féminine, sa part masculine, travaillée, transformée et plus sereine.
Ce qui s'est passé cette année, ou même depuis le mouvement MeToo, a-t-il eu une influence dans votre travail, Martin Provost? Je veux dire, est-ce que ça vous a suffisamment marqué pour remettre en cause, y compris vous, qui êtes considéré comme un féministe, ou en tout cas un sympathisant de la cause féministe, est-ce que ça a changé un peu dans votre travail?
Je pense pas que ça ait changé mon travail, non, ça change rien, puisque je suis dans mon travail et que je suis donc, en tant que metteur en scène, en prise directe avec ce qui se passe. Maintenant, en effet, ça me force à voir ma vie. Et voir que ce que j'ai commencé quand j'étais très jeune, tous les problèmes que j'ai eus, dont j'ai parlé dans mes films et aussi dans des livres, tout ça a du sens. Et que ça me fait aujourd'hui, j'ai 62 ans, à mon grand âge, voir que c'est toute ma vie, ou presque, que là je vais rentrer, je dirais, dans l'adolescence de la vieillesse, et que le travail, je l'ai fait, moi. Je suis peut-être en avance sur mon temps, parce que ce travail-là, j'ai dû le faire, oui. C'est un travail...
C'est-à-dire que vous faites, par exemple, attention à la parité de vos équipes techniques.
Je suis entouré de femmes. Mm-hmm. Je travaille avant tout avec des femmes. Mais j'ai des hommes aussi. Dans mon chef-op est un homme. Mais j'ai toujours été entouré de femmes. J'ai toujours trouvé chez les femmes des relations très très douces, très beaucoup plus fluides qu'avec les hommes. J'avais un père très autoritaire, qui était officier de marine, qui était un homme... vrai, et je m'entendais pas du tout avec lui, je m'entendais très très bien avec ma mère, et tout ça a fait, j'ai appris aussi à faire la paix avec mon père. Quand je dirige une équipe, je dirige 70 mecs, c'est moi le chef, et donc je suis dans sa lignée, mais je le fais différemment, je le fais avec une certaine douceur, j'espère un certain bonheur, et je vois qu'en tout cas avec moi, les acteurs, l'équipe, tout le monde est heureux.
Qu'est-ce qui se passe dans le monde du cinéma actuellement, après ce qu'on vient de vivre avec la séquence des Césars, quand vous parlez à vos collègues, aux comédiens, aux comédiennes, aux techniciens qui vous entourent, Martin Provost, vous dites quoi? Que c'est une cassure, comme on l'a très vite dit au lendemain de cette cérémonie des Césars, ou vous restez positive en disant c'est une prise de conscience et qu'il faut passer par là? Est-ce que vous avez l'impression...
Ah oui, moi c'est ce que je pense, c'est une prise de conscience, il faut passer par là.
Maintenant, au-delà de cette prise de conscience, est-ce que le milieu est si partagé, brisé, disent certains.
Le milieu, j'aime pas ce mot-là. Le cinéma, parce qu'on parle plus de cinéma, on parle de milieu. Et c'est le cinéma qui est important, c'est pas le milieu.
Enfin, ceux qui font le cinéma.
Oui, c'est ça. Ceux qui font le cinéma. Nous, par exemple, les metteurs en scène, c'est difficile pour nous. On n'en parle jamais.
Pourquoi?
Parce qu'on voit notre temps de tournage réduit, que ça, personne n'en parle. J'ai tourné Séraphine en 50 jours, j'ai tourné La Bonne Épouse en 39 jours. C'est rien. Parce que, ça coûte de plus en plus cher, qu'il y a de plus en plus d'obligations, de contraintes. Donc on fait des films, on travaille sur le scénario pendant un temps fou avec beaucoup d'intermédiaires, puis d'un seul coup on vous dit vous avez tant, alors paf on coupe, donc on abîme finalement ce qui a été fait souvent très intelligemment avec certains partenaires. Tout ça on n'en parle pas.
En vous entendant dire ça, Martin Provost, on a l'impression que vous suggérez qu'il y a des problèmes plus graves que ceux qui ont été posés par les femmes et la représentation des femmes.
Graves, oui bien sûr, c'est non la représentation des femmes, enfin moi je suis quand même le premier entouré de femmes, je travaille pour des femmes, tous mes rôles sont féminins, donc pour moi il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Pour moi, j'entends dans mon cinéma, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit, j'ai toujours réussi à faire les films plus ou moins que je voulais, et c'était des films avec des femmes. Et chez moi, elles sont très bien servies, si je puis dire. Mmh. Les hommes sont minoritaires, donc voilà. Maintenant, je pense qu'en effet, il y a d'autres problèmes dans le cinéma et qu'il va falloir aborder. Il n'y a pas que ce problème-là. Il faut revenir toujours au cinéma.
Et réorganiser les Césars, la cérémonie des Césars, l'Académie des Césars.
Oui.
C'était nécessaire pour vous?
Oui, parce que c'est devenu un show. On parle plus de cinéma. On parle de moins en moins de cinéma. C'est un show. C'est fait pour faire de l'audimat.
Vous avez voté d'ailleurs pour les Césars?
Bien sûr que j'ai voté.
Est-ce que vos choix coïncidaient à peu près avec le palmarès ou pas?
Non, pas complètement. Non. Moi, je peux le dire, j'ai adoré le film de Céline Sciamma. Ça m'a bouleversé. Donc j'ai voté pour ceux qui me semblaient importants pour moi.
Portrait de la jeune fille en feu.
C'est un très 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 beau film. Je trouve que c'est un film très courageux. C'est un film comme... Ça m'a fait un peu penser à Séraphine, je ne vous cache pas, parce que c'est un film qui parle aussi de peinture et d'amour, et j'ai trouvé que c'était justement excessivement féminin et merveilleusement sensuel et beau, et l'image est... C'est vrai, je comprends que... Je ne sais plus comment on s'appelle, le chef op... Claire Maton, je crois, a eu le César, mais je trouve que c'était pas suffisant. Je trouve que ça aurait été, en effet, plus courageux de récompenser un film comme celui-là.
La Bonne Épouse, votre dernier film, Martin Provost, sort aujourd'hui. Merci beaucoup, Martin Provost. Je rappelle que votre dernier film, La Bonne Épouse, sort aujourd'hui avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lovski. Mais ça, on en a parlé. On va citer les hommes aussi. Vous voulez bien?
À moi?
Oui. Vous voulez. Édouard Baird et
François Berléand qui incarne l'homme de demain.
Bon, c'est ça. Merci d'être passé ce matin.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Les informations dans un instant, suivies par le journal des idées et les enjeux internationaux. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture. Bonne journée, à demain.